enculé.
Oh, tu m'énerves. À tout temps regarder la télé, tes matchs de foot, là. Oh, j'en peux plus, là. Je suis littéralement ventousé devant ton écran à regarder toute cette espèce de barbare qui court après la balle.
Des barbares?
Oui, ce sont des barbares.
Des beaux athlètes comme ça?
Ah, d'accord, je vois ce qui t'intéresse. Hein? Évidemment. Hein, c'est la fête des corps.
Attention, je vous interromps, c'est parti. C'est un départ qui... Oh là là.
Aïe, que se passe-t-il?
Oui.
Serait-ce à nouveau Satan Dimitri?
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
Voilà. Donc, ça va aller
en l'air.
Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là!
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur l'antenne de Principe Actif, bienvenue dans Ta mère en short, l'émission qui vous parle de sport et qui, comme toutes les semaines, reçoit évidemment les groupes et les acteurs de la vie sportive hébroïcienne et de l'agglo d'Évreux. Aujourd'hui, ce midi, nous sommes évidemment avec l'ami Deux. Salut à toi camarade.
Bonjour.
Évidemment, toujours en charmante compagnie avec l'ami Philippe Guinchard d'Heure Info La Dépêche.
T'y vas fort là, t'y vas fort.
Salut. Je savais que ça allait te plaire. Et puis nous recevons aujourd'hui le Vélo Club d'Évreux. Trois personnes sont avec nous. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue chez nous, bienvenue à la radio Principe Actif. On est content de vous recevoir.
Patrick Laurent, entraîneur et a priori le président Yvan.
Patrick Lecomte. Voilà, moi Yvan Frébert, le président, et puis Laurent Lesterlin voilà, qui fait partie des entraîneurs.
C'est vrai que Patrick Laurent, ça aurait pu faire un nom aussi.
Donc vous l'aurez compris, on vous parlera de vélo dans cette émission.
La petite reine, on disait. C'est ça, je recherchais l'expression.
Voilà, c'était ça, la petite reine.
La petite reine.
On parlera rugby, puisque nous aurons en insert téléphonique Brandon, l'ancien patron du Café des Sports. Nous avons Guillaume aussi, pardon, j'ai oublié de vous dire bonjour, Guillaume de Pickup, qui est allé du côté de Nancy voir le match des filles de l'EVB, si
et
je
ouais,
ne dis pas de bêtises.
1200 bornes aller-retour, salut tout le monde.
C'est malade.
Pour une défaite.
T'as une nana dans le groupe ou quoi, non?
Non. Je connais un ancien, c'est tout.
Ah d'accord, ouais, je connais une ancienne, moi.
On parlera donc... Coupe de France, voilà, de volley. Je retrouvais plus le.
Puis
le
il est complet parce qu'il était au match de l'ALM vendredi soir, tu vois.
Voilà, et on parlera évidemment de basket avec l'ALM, notamment avec Philippe et pour le coup aussi Guillaume. Mais avant tout ça, on commence par notre traditionnel tour de table. Voilà, savoir évoquer avec vous ce qui a retenu votre attention dans l'actualité sportive de la semaine et du week-end écoulé. Qui veut commencer? Qui a des choses à dire? Qui a envie de passer son coup de gueule ou son coup de cœur?
Un habitué, Philippe.
Philippe, on commence évidemment par vous.
Oh, je veux dire quand tu me dis que tu me vois, grand fou. Non, j'ai deux trois trucs qui m'ont bien plu. J'ai vu je crois que j'ai bien fait de ne voir que ça. D'ailleurs, les tirs au but de Ghana Côte d'Ivoire hier soir là, et c'était assez épique parce que voilà, il y a le petit rebondissement. Déjà, je trouve que c'est toujours difficile de conclure une compétition de cette importance-là par des tirs au but, mais le match manifestement personne ne voulait le gagner, donc ils sont restés à attendre cette séance. Deux buts d'avance pour le Ghana au départ, on pense que c'est plié. Derrière, et ben justement, la Côte d'Ivoire inverse tout avec un arrêt de son gardien. Et le gardien qui va devenir le héros à la fin en faisant. Il nous a fait un truc, c'était assez exceptionnel. Il nous a fait le coup des crampes, tout ça. Il en a rajouté au possible. Il a fait beaucoup d'intox. Ça n'a pas pris au départ avec Ayou notamment. Et puis à la fin, bah, il a réussi quand même à arrêter le parce que ça se termine. Il y a les 10 tireurs de champ qui ont officié, donc c'est les deux gardiens qui passent à l'exercice. Et puis bah, lui qui était un ancien joueur de champ d'ailleurs, qui avait commencé comme milieu de terrain avant qu'on se décide à trouver quelqu'un pour mettre dans les buts, et c'était lui qui était le malheureux élu à cette époque-là. Bah, il a réussi à arrêter le tir de son vis-à-vis ghanéen, et puis donc il est devenu le héros en transformant le tien. Alors c'était assez marrant. À la fin il y a une interview où il pleure devant le micro de l'envoyé de Canal, je crois, et il est en train de, il a dit ma maman a même, c'est pour elle que j'ai fait ça. C'était super 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 touchant, super frais, donc c'était vraiment, c'est marrant quoi. Voilà, c'était mon époque larmoyante positive.
Très bien. Est-ce que Deux, vous auriez des choses à évoquer sur ce tour de table?
Ouais, moi je regarde un petit peu de d'Ovalie, un match de Pro D2 qui était diffusé sur la 3ème
chaîne. France-Écosse,
3ème chaîne nationale. J'ai regardé un Perpignan-Biarritz.
Pardon, je crois que c'était ça.
Perpignan-Biarritz, très intéressant. Non, je plus un petit coup de gueule, tiens, pour une fois. On va parler des résultats sportifs dans quelques instants. Et il se trouve que moi je connais des joueuses, hein, forcément, et des joueurs d'Evreux. Voilà, quand on a grandi sur cette terre ébruissienne, on se lit de contact avec certaines personnes, et ben voilà, j'ai le regret d'apprendre qu'en 2015, de m'apercevoir qu'il y a encore des choses qui restent, des choses un peu nauséabondes. On est en excellence région féminine de basket, et sur des terrains du 76, où pourtant les bourgades et les communes sont pourtant attrayantes, hein, peut-être par le biais de leur camping municipal, ou de l'auberge qui va bien, ou peut-être même encore de la piscine s'il y en a une. Eh ben il y a des choses qui restent qui sont pas très saines, puisque bah a priori il y a eu des insultes racistes, voilà, avec des gros, et en plus du sport féminin. Alors je trouve, alors après ça n'excuse rien, on soit homme, enfant, féminin, c'est pas mieux ou moins bien, mais c'est quand même incroyable. Voilà, des mots, des noms d'oiseaux, et puis des raccourcis mais complètement débiles qui sont sortis du côté d'Offranville, hein, pour ne pas les citer, pas plus tard que ce week-end. Voilà, donc ça c'est moi des choses qui me désolent, d'entendre ça en 2015, des termes en voulez-vous, en voilà, complètement débiles qu'on relèvera pas, mais je suis juste, voilà, qui ont été dit, entendus, et qui sont revenus à mes oreilles, donc je voulais en parler. Voilà.
Mais sinon tu n'ouvres pas ton poste, parce que je crois que ça c'est assez tendance qu'on dirait en ce moment, non, les insultes racistes et tout
pas,
ça, non
pas, ou non,
j'ai non, pas non, t'as pas vu qu'il y a beaucoup de gens, ça revient un peu au goût du jour, je trouve.
Mince.
Ouais, non,
merde. C'est pas terrible.
Pas
non.
Terrible, ouais.
Non, c'est pas terrible. Enfin voilà.
On n'est pas obligé d'adhérer. Hein.
Non, j'adhère pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que ta mère en short ou quoi, hein, monsieur Guimauqué, n'accepte pas la chose.
Ah, oui, bah,
ça surge de la chose.
Que ce soit quand on parle de sport, en matière de sport, ou dans la vie de tous les jours, plus généralement, je crois qu'il est bon toujours de rappeler que le racisme est puni par la loi. Les propos racistes, sont sanctionnés par la loi. Donc c'est pas parce que ça fleurit sur les réseaux sociaux ou dans certains espaces où on se croit au-dessus des lois que ça légitime ou autorise le fait de pouvoir le faire. Voilà.
C'est pas terrible. Voilà de mon côté.
Est-ce que parmi nos invités, il y aurait des choses en matière de sport, pas forcément négatives, au contraire plutôt positives, qui auraient marqué votre attention durant la semaine passée?
Oui, il y a le match de foot Caen qui remonte très très bien. La victoire contre Toulouse 2-0, un beau match que j'ai regardé, très bien.
Ah, avec voilà. Un Julien Ferrer,
je suis
supporter canet,
normand.
Normand, ouais, je suis normand, mais bon, j'aime bien le foot. J'ai mon fils qui joue au foot à Évreux, donc il joue en DH, donc mais j'aime bien ça.
Voilà. Alors surtout c'est bien s'ils ont réussi à se remettre dans le bon sens, parce qu'ils étaient quand même pas mal acculés, avec notamment l'histoire de Fortin, du président là, qui a trempé un peu dans une histoire. On avait parlé ici là entre le match nul arrangé entre Nîmes et Caen.
Oui.
On pensait qu'ils allaient essuyer un gros contre-coup. J'ai été surpris d'apprendre, enfin surpris sans être surpris, de voir qu'ils s'étaient séparés de leur meilleur buteur dans l'an passé, qui manifestement a pris un peu le boulard cette année, et puis qui est parti à Evian-Tono Gaillard, là, le cher Duhamel, voilà. Et donc, même malgré cela, justement, peut-être grâce à cela, ils sont repartis sur une dynamique vachement intéressante.
Ouais. Je crois qu'ils sont repartis sur une bonne base. Et puis, bon, apparemment, ils auraient un coach un peu pour le mental, tout ça, qui doit aller prendre un
sophrologue.
Je crois que le mental, il fait beaucoup dans les courses, dans les...
Si vous pouvez le prêter à la LM Basket, ça serait pas mal. Faut peut-être
Exactement. Ah. Je pense que c'est ce qui manque des fois dans des grands clubs. Quelqu'un
au rugby aussi, d'ailleurs, voilà. Je pense. Au rugby,
si vous pouvez rajouter un sorcier ou un gros bouteux, et puis enfin un mec qui sait y faire.
Ça. Non, mais ça y fait beaucoup.
En tout cas, belle victoire du SMC, c'est ça, je crois, Stade Malherbe de Caen.
Monsieur Pickup avait une petite chose à soulever.
Bah on va rester dans le foot normand, parce que moi je suis tombé sur le match du Havre à la dernière journée qui passait à la télé. C'était Le Havre contre Valenciennes, et j'étais quand même affligé de voir, ils ont construit un tout nouveau stade, le stade Océane.
Superbe d'ailleurs.
Superbe stade, mais qui est complètement vide. C'est quand même consternant. J'ai déjà vu d'autres matchs le lundi soir où il y a d'autres stades qui remplissent, et donc je sais pas ce qui se passe au Havre, mais le public est absent, quoi. Et donc ils ont gagné quand même. Mais je trouve ça quand même assez hallucinant.
Peut-être qu'on les a fait rêver avec la signature d'Adriano qui n'est jamais venu.
Si la signature d'Adriano était quelque chose de rêveur, c'est sûr.
Ouais, c'est vrai.
Vu son nom,
c'est un problème aussi, mon point de vue argent et tout ça. Là, je crois que là, il y a un gros problème là.
Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est quand même un club qui, bah, déjà, c'est le plus vieux club français. Hein,
et qui avait des fidèles, voilà, à des Chazos avant.
Qui a des fidèles, hein. Voilà. Et c'est pas très loin, parce qu'il faut juste traverser la route pour y être. Hein, et c'est curieux, parce que le stade, il est vraiment magnifique. Il est très, très bien pensé. C'est vraiment les stades à l'anglaise, comme on aime bien. C'est-à-dire que t'es légèrement en dessous de la pelouse. C'est-à-dire que t'as une vision très rase et tout ça quand t'es au premier rang. Et puis, c'est vraiment un beau petit stade. Alors, effectivement, par contre, il n'y a pas une grosse équipe. Je pense que l'histoire là, de Louvel a fait beaucoup de mal, parce qu'il a tergiversé trop, et je pense qu'il a dégoûté pas mal de gens qui aiment le football dans ce moment-là, et que voilà, il va falloir être sérieux et reconstruire quelque chose qui ressemble à du football, et avant tout à du football, pas à des espèces de divas en surpoids qui seraient censés arriver et qui n'arrivent jamais, quoi.
Donc, voilà. Très bien.
Et l'Atlético qui a battu le Real 4-0 aussi quand même.
Ah, ça c'est bien.
Ça fait du bien.
Le petit Griezmann qui coule là.
Alors moi j'avais aussi envie de parler un petit peu de foot, mais
tu remarqueras qu'on a été faire plus, t'as laissé Lyon PSG. Hein.
Alors pour une fois je ne m'insurgerai pas contre le match du dimanche soir qui était généralement pourri depuis ces derniers temps. Celui d'hier soir était plutôt sympa. Non, je lisais dans l'équipe, en survolant l'équipe pour préparer un petit peu cette émission, une autre chose assez affligeante, on va dire. Au Caire, il y a eu des violents affrontements entre des prétendus supporters du Zamalek et les forces de l'ordre. Alors, on sait bien qu'en Égypte, suite au printemps arabe, etc., la situation politique est très compliquée. Ça se règle beaucoup dans le sang et la violence. Et ça a pas manqué. Une vingtaine de morts. Le dernier bilan fait état de 19 morts, pour être précis. Des nuques brisées, etc. Donc, voilà, c'est aussi ça, malheureusement, le sport, un catalyseur de haine et de violence et d'enjeux politiques. Voilà, et on aime aussi à pointer ce genre de choses dans cette émission.
C'était le retour au stade après 3 ans de fermeture. Un bon retour. Ils étaient terminés sur un très beau score de 72-73 morts. Là, ils ont recommencé tout doucement par 19. C'est bien, ils sont sur la bonne voie.
Ça faisait en effet plusieurs mois que les matchs se déroulaient à huis clos. Ils avaient voulu un petit peu ouvrir les choses au public pour essayer d'améliorer la situation. Je ne suis pas sûr qu'ils réitèrent l'expérience dans les prochains mois. On s'accorde une petite pause musicale pour relativiser un peu tout ça. On va s'écouter Fuma Sapreta qui jouera à l'abordage. Vous savez que c'est Hasta la Vista, l'abordage.
Mercredi.
L'abordage nous dit au revoir depuis samedi soir. Et on va écouter ce qui se jouera sur la scène de l'abordage club mercredi soir. Et on se retrouve juste après pour parler rugby, notamment avec Kevin Vollard au téléphone.
Oh!
Massa Preta qui sera sur la scène de l'Abordage Club ce mercredi. Vous savez que l'Abordage vous dit au revoir, hasta la vista.
Et ce sera de fort belle manière parce que mine de rien, des Brésiliens qui vivent à Amsterdam, qui font du gros rock un peu psyché et qui ont en même temps un gros groove derrière, j'ai envie de dire que ça peut être une date extrêmement intéressante demain soir, mercredi. Après demain soir.
On essaiera d'y être, bien évidemment. Nous sommes avec un autre habitué de l'Abordage.
Il s'agit... Père fondateur.
Mais oui, Kevin.
De l'Abordage.
Coach et
aussi.
Coach et joueur à l'EAC Rugby, si mes infos sont toujours les bonnes.
Il est plus coach.
Elles sont très mauvaises.
Il est plus coach.
Il essaie de rejouer.
Bonjour, messieurs.
Salut, Kevin.
Salut, Kevin.
Pour rester dans le thème, hola, hombre.
Alors, on revient avec toi sur les résultats de l'EAC Rugby du week-end. Ça se déplaçait à Houille.
Tout de suite pour couper court à la guinche, est-ce que ça vaut le coup que j'y revienne ou... Mais on aime bien le soutien de Rinfon, on a fait deux fois les premières pages ces derniers jours, ces dernières semaines, quand on perd et quand ça va pas, donc c'est sympa, ça nous fait plaisir.
Oh là 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 là, cette mauvaise foi. Mais c'est justement, ne pas parler de toi, ça serait oublié, et ça c'est terrible. C'est un appel à la population qu'on fait.
Voilà. Non, mais voilà. Résultat encore, on va dire une énième défaite pour le AC Rugby en déplacement du côté de Houille, avec une équipe un peu petite parce que des blessés, des suspendus. Donc quand tout ça s'additionne et puis qu'on va chez un des quatre premiers de la poule, c'est jamais évident. C'est les mêmes qualités, les mêmes mots que d'habitude, une équipe courageuse qui progresse de match en match, mais qui n'arrive pas à sortir de la nasse, et puis qui donne toujours autant de points à ses adversaires. Et ça, c'est rageant, parce qu'il y a 3-0 sur une pénalité à la 10e à peu près, renvoie chez l'adversaire, on leur met la pression... On récupère le ballon sur ce coup d'envoi et on écarte un ballon. Et là, bing, interception. Et c'est de 60 mètres, 70 mètres, 10-0. Le match est plié en 2 secondes quasiment.
Alors pour être...
donc ça fait mal.
Pour être tout à fait précis sur le score, l'équipe 1 a été battue par Houille, donc 28-3.
Ouais, 28-3, voilà. Donc Houille en plus n'avait pas trop le droit à l'erreur. Pour espérer rester dans les 4 premiers, voulait faire le plein là parce qu'ils nous jouaient nous. Après, ils vont à Hérouville et ils ont Armentières aussi à arriver. Donc les mal classés, il faut qu'ils prennent un maximum de points parce qu'après ils finissent la saison avec Drancy, Courbevoie et Beauvais qui sont les 3 premiers. Donc s'ils veulent rester dans les playoffs, il faut vraiment qu'ils marquent des points, qu'ils cartonnent et voilà. L'objectif était de chercher le bonus offensif, ils l'ont obtenu.
J'espère que vous avez réussi au moins à leur assurer une bonne troisième mi-temps en les motivant pour les matchs à venir, parce que c'est important pour vous. J'espère que tu as Armentières et Hérouville, il ne faudrait pas qu'ils se relâchent.
Voilà, c'est où ils n'ont pas trop l'intention, et puis il y a deux ex-ébrouissants quand même du côté de Houille, et qui préféraient continuer à jouer contre Évreux que de se fader Armentières tout là-haut, ou... Hérouville, ils préfèrent rejouer contre les potes et puis leur club formateur que les autres clubs.
Concrètement,
j'espère que le message va passer.
Concrètement, on en est où niveau classement pour le AC Rugby?
Concrètement, on en est qu'Évreux à 14 points, tout comme Armentières. Et puis derrière, à 11 points, il y a L'Aigle et Hérouville. On rappelle la victoire 4 points, défaite 0. Défaite de moins de 7 points, 1 point de bonus. Victoire de avec plus de 3 essais d'écart, plus 1 pour le bonus offensif. Donc rien n'est fait. Ce qui va être paradoxal, c'est qu'Évreux va jouer son maintien dans les semaines qui vont arriver.
En se
déplaçant à Hérouville et à Armentières. Et puis il y a une réception aussi de Versailles qui va vouloir son pesant de cacahuètes. Le 22 février, au début, ça sera les vacances du côté de Paris, donc on espère bien qu'il y ait 2-3 riches Versaillais qui se barrent au ski, et puis que ça amoindrisse un peu leur équipe de ce côté-là. Que le directeur du service des sports d'Évreux,
Mathieu Queval, pour ne pas le citer.
comment ?
Mathieu Queval, pour ne pas le citer.
Voilà, qui est entraîneur de Versailles, c'est un peu le paradoxe, hein, le chef des sports d'Evreux et entraîneur d'un club adverse à Evreux. On espère que la météo et puis que les faits ne retiendront pas ça, mais ça serait assez drôle qu'il y ait beaucoup de pluie et puis qu'il faille prendre un arrêté municipal en plein milieu des vacances des Parisiens et que du coup, on ait un match reporté, ce qui les arrangerait plutôt dans cette histoire-là.
Très, très rapidement, Kevin, tu parlais du maintien. Quel objectif pour cette fin de saison et surtout dans quel état d'esprit se prépare le AC Rugby pour cette fin de saison ?
On va dire que le AC Rugby bosse beaucoup. Ça, c'est vraiment la nouveauté. J'étais malheureusement de la dernière descente en 2008-2009. On n'était pas aussi nombreux de la première aux entraînements. Ça bossait moins. En plus, cette année, on est passé à 3 entraînements semaine et ça répond plutôt présent. Donc, il faut espérer que tous les efforts consentis aux entraînements depuis un bon bout de temps payent sur les confrontations directes avec les mal classés, où ce championnat de Fédéral 3 devient vraiment très dense, très compliqué. Et Evreux va jouer son maintien sur... ça va être sur 6 matchs, sur une saison qu'en comporte 18, il y a 6 matchs à gagner contre les mal classés, contre le fond du classement. Et puis de temps en temps, tu peux te prendre à rêver d'un exploit. On n'est pas très loin contre Marc-en-Barœul. Au final, on finit avec le bonus. Courbevoie, on fait un gros match, on rate quand même le bonus. C'est vraiment une autre dimension maintenant, le haut de la poule de Fédéral 3. Et on n'a vraiment pas et les moyens techniques, physique et financier.
Est-ce que tu penses que justement c'est intéressant de rester à ce niveau-là justement ou est-ce qu'il faudra un jour être raisonnable et se dire que la place d'Evreux maintenant c'est plus en honneur que parce que Evreux ne met pas d'argent dans le rugby et que il faudra mieux être je dirais roi dans la région qu'un gueux dans la nation. Ouais.
Pour avoir joué en régional il y a 5-6 ans, jeunes qui font l'effort de revenir de Rouen, ils iront jouer à Couronne, ils seront plus chiés à faire de la route pour venir s'entraîner parce qu'on leur propose d'être en national. Et puis à côté de ça, aller jouer, j'ai rien contre eux, mais Cherbourg, Flamanville, où leur équipe, c'est une vision globale de club, où les mecs, ils ont 50 ans de moyenne d'âge, ou 45 ans derrière, c'est un peu... où les gamins... c'est bien, l'équipe B va mettre 70 points tous les week-ends, mais elle est où la progression, il est où le travail ? C'est dur, mais... c'est dur. Je pense que c'est deux fois plus intéressant, même si, je lisais un très bon article, par contre, dans un des coins locaux sur un déplacement qui n'avait pas été très joyeux du côté de Boulazac. J'invite Principe Actif aussi à venir dans le bus pour monter à Armentières, à compagnie de Lingache, si vous voulez voir ce que c'est qu'un bus avec... Il n'y a pas 7 heures de bus.
Très beau clubhouse, pareil, à Armentières.
On essaiera de venir vivre l'expérience.
Mais le groupe vit bien et je suis vraiment optimiste sur la fin de saison parce que tout le monde a envie de rester à ce niveau-là et dans les vestiaires, avant le match, il y a des yeux qui brillent, il y a des mecs qui ont la bave au ventre et puis je pense qu'on est...
La bave au ventre est un nouveau terme que j'aime beaucoup. Ça, on avait pu le vérifier l'autre jour parce que c'est vrai que quand on est venu voir le match contre Marc-en-Barœul, là, effectivement, la fin de match avait été très très bonne et on voyait le même discours chez tout le monde, chez Simon Lozier, chez Dune Pila. Là, il y avait vraiment beaucoup d'envie et c'est vrai, pas de renoncement. Maintenant, est-ce que tu penses que l'équipe, elle est capable d'aller gagner des matchs à l'extérieur, à Armentières justement et à Hérouville? Parce que, à mon avis, ça sera là que ça se jouera. Ça sera pas forcément contre Versailles à domicile. Ça sera plutôt là-bas où il faudra prendre 4 points minimum.
Je pense que vu le match qu'on a fait, même si c'est 28-3, c'est la première fois en déplacement après avec l'Aigle, mais l'Aigle ça compte pas trop parce qu'on a perdu et que c'était un concurrent, mais c'est le premier déplacement chez un gros où en sortant du terrain on peut se regarder dans les yeux parce qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait pour mériter le respect de l'adversaire. Je rappelle, on a pris 60 et quelques points à Drancy, on en a pris presque 50 à, à Beauvais, à chaque fois les mecs ils nous rigolaient à la gueule, et il y avait, tandis que là il y avait du respect, et parce qu'il a fallu qu'ils s'emploient pour aller les mettre ces 4 essais, et c'est la première fois qu'on arrive à montrer ce visage en déplacement, et c'est intéressant justement à 3 semaines d'aller jouer du côté d'Hérouville.
Avant de te laisser, Kevin, j'aimerais juste aborder un petit point avec toi. Tu sais que les Six Nations viennent de commencer ce week-end. Ton regard et tes attentes par rapport à ça, et notamment sur l'équipe de France et cette victoire en trompe-l'œil contre l'Écosse. 15-8, on rappelle.
Je suis pas d'accord avec le mot victoire en trompe-l'œil.
Pareil.
Parce que au final, c'est que ça reste une victoire. Ah, oui. Les 5 pénalités qu'il a fallu, c'est sur le pareil en mêlée. C'est sur des séquences de jeu où ils se mettent à la faute, mais ils se sont mis à la faute tout le match, de toute façon, avec leur numéro 7, avec son mulets et son casque, là.
Ouais, mais il nous a fait chier dans les rucks. Hein.
Qui a été un vrai chien fou. Seul problème, c'est qu'on n'est pas capable de libérer des ballons propres contre l'Écosse, qui a cette qualité d'être très dynamique. Mais les Irlandais, il n'y en a pas un comme ça, c'est 15 comme ça, et je ne vois pas comment on va se dépêtrer dans le jeu au sol. Des Irlandais, je vois pas comment on peut aller s'imposer du coup contre eux. Après, c'est plus largement sur le rugby où ça ressemble plus à du rugby, parce que au sol c'est vraiment n'importe quoi, et du coup il y a plus de jeu parce que les arbitres, il y a trop de laxisme pour dire jouer, sauf que ça tue le rugby et le jeu. Après, voilà, l'équipe de France pour l'instant je les sens pas. Et dans l'animation, même si on a vu un peu des nouveautés dans l'animation offensive, avec leurs petits blocs là pour rejouer autour à droite à gauche comme le font les Irlandais. J'ai pas vu tout le match de l'Irlande, et puis on peut pas dire grand chose parce que c'était l'Italie. Gal-Angleterre, beau match, très belle première mi-temps surtout, et puis bah, les Anglais au final, même avec 15 points de retard, ils sont encore là à la fin, et puis bingo, ils gagnent quand même. À l'usure, à la gestion, avec il y a des joueurs que je connaissais peu du côté de l'Angleterre qui ont fait des gros matchs, notamment leur ouvreur là. J'ai trouvé qu'il était très bon dans la gestion et l'animation. Il a jamais paniqué. Ils ont avancé ils ont vraiment été méthodiques comme dans une partie d'échecs, pion après pion, et ça a avancé. Et puis au final, ça gagne.
Super.
C'est beau quand il parle. On l'écouterait.
Quand même 23
minutes qu'il parle quand même, c'est beau. Hein, quand même.
On te remercie, patron, et puis on se tient.
Je te promets, aucune info, aucune une cette semaine sur le rugby. Je te promets.
Merci. Hein.
J'attendrai que vous gagniez un match. Je peut-être pas là d'en revoir tout de suite, mais j'attendrai qu'on vous gagniez un match pour faire une
nouvelle. Pour l'ambiance. Bonjour Kevin, c'est Yvan Frébert. Moi qui suis le rugby de beaucoup plus loin, je constate quand même qu'à l'EAC, depuis à chaque fois que vous voulez mettre Dominique Martin en retraite, je vois que vous êtes en difficulté quand même.
Exactement.
Juste pour compléter, il y a quand même un match dimanche à 15h avec les féminines en fédéral, c'est la 3e division nationale. Venez voir parce que c'est la bonne surprise du côté du club.
Elle se porte bien, oui.
Avec les juniors aussi, les moins de 18 ans qui sont combattus Orléans dans le championnat de France Ballandrade. C'est le deuxième niveau national en junior. Et eux, ils sont en phase de se qualifier. Les féminines, elles en sont pas loin. Donc venez voir, n'hésitez pas. Et puis le 22, il y a Versailles. Et puis Yvan, je t'ai aperçu du côté de la préfecture vendredi soir. Pardon. Et je te disais... bien déçu pour vous du côté de votre de la traditionnelle Paris-Évreux qui est annulée faute de moyens, mais je renouvelle le message.
Ah, merci Kevin.
Bon, ben
salut Café des Sports.
Merci Kevin.
Ah non, pardon. Salut Café des Sports. Allez, c'est les amis.
On se tient au jus, et puis à tout bientôt. Merci à toi,
okay,
Kevin.
Ciao.
Allez, bonne continuation. On repart en musique, et puis on revient avec et Guillaume et Philippe et nos invités pour parler sport local.
Hellfire. Keep the camera on my good side. Here we go. champ. How could you call yourself the best rapper? You in the cover band is playing sledgehammer. In your cup hands as a pet hamster. Your gentle toes are sitting on wet pampers. Hold up while I test this red snapper. Militant like a pledge panther. A hunt big game, nigga. I could leg antlers. And you got bitch problems, breast cancer. Hellfire could bring the wrong set to slander. Make you eat a crepe filled with chia pet dander. And I always stay on the set with cameras. I go, Herzog, nigga, you dead like dirt dog. On your move, you're making blames in the booty shaking vein. On the moving gravy train, that bit of excruciating pain. Cause I'm in the house, they be like witch house. I make witch house, I bet your bitch house. Worry nothing but a speedo when it picks now. Y'all must have preaching over him, shocking me like I'm Chris Nolan. My scathing critique of your shit leaves your script molten. Cause you wanna drive Porsches through the Waterloos. Have a home like the Fortress of Solitude. So on set, you storing shit through a hollow tube. But at the end, you're just gorgeous piranha food.
He's Herzog, I'm P.T. Anderson. At your premiere, I snuck 3D cameras in. I bootlegged your shit for the downtrodden. Cause you got your film degree at a clown college. You use brown polish like a white racist. And shoot titles in sans serif typefaces. Take five paces, turn and gale fire. I nail you to a big board like Mel Kiper. No secret, I tell you I smell wiser. I got a bunch of girls pregnant cause I sell diapers. And I'm a goddamn genius. The Mark Maron, a dark-skinned art baron. Smart like lucky kids that get born to smart parents. They feed them locally grown farmers market cart carrots. I eat fair trade cheese and fart fairness.
I go Werner Herzog. I go Werner Herzog. I go Herzog, which means I get large bread. Art cred, smart heads are fed. I go Werner Herzog.
Skip the introduction, buddy, I'm not mingling. Holes on my dick cause I look like John Singleton. Cut like Tarantino with this big ass machete. Once I read my notebook, word to Nick Cassavetti. 12 frames, half a second, clockwork, Stanley Kubrick. A rap session, I'll put my nose in, I can't be Buddhist. I learned my lesson, I'm really a savvy student. But dark like Tim Burton, the look fits like a thin person. But I'm just a happy human. Before I see a stupid rom-com with a nice chick, I might get the right grip to set up a light rig. Attach a GoPro to the Popo's nightstick and assault him with an ice pick and ask him how he likes it. Excuse me, my swag sharded. I feel like Shaq with a shag on shag carpet. These rappers aren't factors, they're actors with no SAG cards in. They think they the truth, but they that gossip rag garbage. Written shit a freestyle, homie, I'm that murderous. Remember me, I used to enter them rap tournaments. Breaking niggas' spirits like a bag full of glass ornaments. But bitch, it's time to eat now, show me where craft services. Thinking out loud like an introspective extrovert. If I play the background, I'm directing, not that extra work. Bust at 16, but I decided to put in extra work to make them strippers drop it super mega low and extra twerk. Rappers said they don't hate, but most of them do. I feed off it like Vigo and Ghostbusters too. I can roll up your crew, a throat fuck your boo. Whatever transpires is so up to you. Lights, camera, action, the whip is fully covered, so I might have to crash it. Getting southpaw HJs from a right-handed ratchet. The airbag deploys, the credits start to roll. How anticlimactic, hellfire.
C'était Bus Driver qui jouait ce week-end du côté de l'abordage en première partie de Random Recipe. On avait un envoyé spécial du côté de Nancy en la personne de Guillaume qui s'est intéressé au déplacement de l'EVB, on parle de volleyball. Et voilà, vous venez avec vos petites feuilles de statistiques, vous allez pouvoir parler de ce résultat, de ce que vous avez vu. C'était donc en Coupe de France de volley féminin.
Coupe de France amateur, c'est-à-dire une Coupe de France où tu n'as pas les clubs de Liga dedans. Et en fait, il y avait les quarts de finale et demi-finale qui étaient organisés en fait en mini-tournoi de 4. Donc, Évreux, sur le premier jour, devait jouer Marc-en-Barreuil, qui était dans l'autre poule, mais moins bien classé, c'est-à-dire qui normalement était en dessous de nous au niveau, pour le niveau. Vendeuvre, quant à eux, ils ont mis la Nationale 2 toute l'année, en fait, pour cette compétition-là. Et donc, du coup, ça veut dire que c'était l'équipe bis de Vendeuvre. Elle n'a pas fait long feu, d'ailleurs. Elle s'est fait éliminer par Calais en quart de finale avant de perdre. Il y avait un match de classé de ceux qui ont perdu, en fait, qui servait à rien.
Ah, si, ça sert à filer un billet pour la Coupe de France, le Liga. D'après, je crois, les trois premiers sont qualifiés automatiquement.
Oui, mais c'est pas les trois premiers, du coup, parce qu'en fait, là, t'as encore. C'était que.
Ah, mais les trois du plateau, je crois, sont qualifiés. D'après, c'est les six premiers, je crois.
Oui, mais non, c'était pas possible parce que là, en fait, t'avais quart de finale le premier jour. Après, t'avais une demi de chaque côté, en fait. Donc, il y en avait à Lyon, avec Mougins, avec Toulon. Donc Lyon-Saint-Fons et Poitiers. Et donc, il y a eu les deux demi-finales de chaque côté. Donc, les trois premiers sont dans les deux demi-finales. Donc,
du coup, c'est les trois premiers de chaque poule, je crois. C'est les six premiers. Enfin, ça fait les six premiers, en fait. Moi, je crois, hein, parce que j'ai cru comprendre. Mais sinon, c'est tellement le bazar. Tu mélanges les deux compétitions. C'est vrai qu'en ce moment, on marche sur la tête dans toutes les disciplines.
Donc, bref, c'était un peu le bazar. Mais Évreux jouait Marc-en-Barœul. Et donc, elles se sont inclinées 3-2 avec un 17-15 dans le dernier. Et surtout, deux balles de match à 14-12.
Ah, merde.
C'est dommage. Elles ont mis du temps à démarrer dans le premier set quand même, mais elles finissent finalement qu'à 23-25. Voilà. Ensuite, le deuxième set, 25-22 pour nous. On mène 2-7-1 derrière, 25-19 dans le troisième. Le quatrième set, alors là, il y a eu un tournant. C'est à un moment, il y avait 23-22 pour l'équipe d'en face, pour Marc-en-Barœul. Slavova qui rentre juste pour ces points-là, qui met un ballon et qui marque le point. Et l'arbitre juge qu'il y a un porté, alors que nous, on ne l'a pas vu. Et donc, du coup, bah, 24-22 au lieu de 23-23. Derrière, il y a eu un peu de déconcentration. Et on perd le set là-dessus. Et donc, dans le tie-break, 17-15, chassé-croisé. Pas mal d'attaques dehors, en fait, pour permettre à Marc-en-Barœul d'égaliser ou de repasser devant. Et donc, derrière, on perd à 17-15. Il y avait eu quand même du bon, moi j'ai trouvé. Enfin, il y a Dujic qui a été assez bonne, Zanotto aussi, qui ont fait leur travail comme d'habitude. Après, donc, j'ai interviewé Olivier Lardier le lendemain, parce que le soir même, c'était pas facile, ça faisait pas mal la tronche, elle était super déçue, tout le monde était très déçu. Et donc, le lendemain, je l'ai eu, il a noté qu'il y avait, en fait, c'était la cohésion d'équipe et l'envie qui manquait, en fait, ce qu'ils avaient retrouvé depuis toute une série de matchs, parce qu'elles étaient sur 6 victoires consécutives quand même en championnat. Et en coupe, parce qu'il y avait le match aussi contre Quimper pour se qualifier ici. Et donc, il a noté qu'il n'y avait pas cette envie, cette hargne qu'elles avaient retrouvée. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même. Enfin, elles n'ont pas lâché de 7 bêtement comme elles auraient pu le faire avant, quoi. Ou avant, ça déroulait pour les adversaires en face et tout. Mais certes, peut-être un petit peu moins de niaque. Et puis aussi, la répétition des matchs à l'extérieur qui a peut-être fait qu'il y a eu aussi une perte d'énergie là-dessus. Autre fait marquant, c'est qu'il a fait très peu tourner. Il m'a justifié ça par le fait qu'il voulait son 6 majeur avec juste la libéro Schoenauer qui jouait à la place de Buki Bormasovic et que c'était à elle de faire le boulot. Mais n'empêche que peut-être qu'un peu de fraîcheur sur la fin de match aurait aidé. Bon, après, ça se défend. C'est lui ce qu'il pensait faire. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et donc, à la fin, on perd, on se fait éliminer. Et il va falloir remotiver les troupes pour le match contre Chamalières, qui sera super important samedi, qui est son premier ex aequo avec nous, je crois.
Ouais, on annonce la venue de Valéry Giscard d'Estaing samedi. Non, je déconne.
et c'est surtout que d'ici la fin de saison, après on va jouer quand même Albi, qui est encore dans la course, il me semble, enfin qui est pas trop loin, et Mougins aussi. Enfin, les quatre derniers matchs sont super importants, car on garde les résultats contre les équipes qui passent au tour suivant. Et donc du coup...
Déjà, il faut être dans les trois premiers. C'est bien reparti, on va dire, pour l'instant. Mais effectivement, Chamalières, c'est vraiment un match charnière. Ouais.
Et mais si on se qualifie, donc il faudra gagner contre ces équipes-là, parce que pour l'instant, nos victoires, on les a plus contre des équipes qui étaient moins bien classées. Et donc qui nous serviront à rien pour la deuxième phase dans ce cas-là. Donc le lendemain, le match de classement donc contre l'AB de Vendeuvre, elles ont gagné 3-0 sans trop forcer, c'était une équipe un peu remaniée, il a fait jouer les remplaçantes un petit peu pour entretenir le physique et tout, mais il n'y avait rien de bien intéressant avec ce match-là, et donc vraiment, il faut se reconcentrer maintenant sur le championnat.
Qui a gagné?
Ça c'est le truc qui a faussé la compétition, parce que du coup tu mets une équipe B de Vendeuvre National 2 qui était quand même beaucoup plus faible. Calais le premier jour, il gagne 3-7-0 facilement. Évreux Marc-en-Barœul, donc Marc-en-Barœul match super accroché, il était très facile de deviner le résultat le lendemain. Calais a gagné 3-0 le lendemain. J'ai pas vu le match, on est reparti avant nous quand même, mais voilà, c'était pas guère surprenant. Et de l'autre côté, c'est Mougins qui s'est sorti des 4 équipes et qui sera donc en finale de cette Coupe de France amateur contre donc Calais. Voilà.
Merci Guillaume, n'hésitez pas à repartir en expédition du côté de Nancy,
c'est
très joli,
l'actualité
le nécessite.
La place de Stanislas de nuit, c'est vraiment sympa. Et juste, je voulais dire, je vais faire un petit bully reportage avec la réaction d'Olivier Lardier donc le lendemain que je montrais et que j'essaierai de faire pour mercredi.
Très bien, le message est passé, on attend ça avec impatience.
Parce que c'était un peu long pour l'émission là, 7 minutes.
On parle basket, ALM Basket.
Oui, on peut, mais c'est vrai que du coup, on va garder un petit peu le Guillaume qui était présent, même si je pense que Philippe a suivi ça après, même si exceptionnellement on n'était pas à la salle.
Ouais.
Et moi non plus. C'est le premier match à domicile que je ne voyais pas cette saison. Et donc, que j'ai suivi en live text. Guillaume va nous donner ses impressions, lui qui est à la salle. Alors, reste forcément sur sa fin. Moi, j'avais en plus annoncé la semaine dernière que j'avais assisté à la rencontre entre Saint-Quentin et le Portel, qui avait été diffusée sur leur chaîne télévision. Ils ont une chaîne sur Internet,
ma chaîne télé,
ouais. Où je sais que Saint-Quentin n'est quand même pas un foudre de guerre. Ils reviennent de loin, ils ont limogé leur entraîneur. Effectivement, ils ont des US intéressants, de forts joueurs français. On pense à Lecieux, qui est peut-être un des meilleurs intérieurs français du championnat de Pro B. Mais il est vrai que derrière... bah, c'est une équipe avec des blessures. Mangin, qui était blessé en début d'année, qui n'a pas pu beaucoup jouer. Enfin, c'est une équipe un peu reconstituée, qui était franchement normalement dans nos capacités à Évreux, si tout le monde tire dans le même sens. Et puis, bah, désarroi, déjà roi, défaite.
Double défaite, d'ailleurs, parce qu'on avait perdu là-bas. Donc, ça, ouais, fait le golavérage particulier entre cette équipe-là. On ne l'aura pas, déjà, c'est sûr. Et pour l'instant, ils ont recollé au peloton des 9e, sachant que la 9e place n'est pas sûre cette année d'octroyer
tant qu'on ne sait pas si Antibes aura battu Souffel ou pas.
Et puis c'est la première fois de la saison que l'ALM est sous la ligne de flottaison. Elle est à 48% de victoire maintenant au lieu des 50 et plus. Mais bon, ça, je pense qu'en fait, c'est un peu le contre-coup de ces défaites à l'extérieur. C'est que quand on perd à l'extérieur, on se met une pression très forte à domicile. Et contre des équipes qui ont beaucoup d'expérience, comme, parce que moi, je pense qu'elle est quand même pas mal bâtie, cette équipe de Saint-Quentin.
Ouais.
Moi, j'aime beaucoup Sherman Gay. Enfin, il y a des très bons joueurs. Gay, Lezieux, le petit Zenoulbach.
Anthony Smith,
qui a dû être très, très bon. Ouais.
Et Sigurs, qui a fait une super entraînement.
Voilà, Sigurs, c'est un mec très complet qui peut jouer. Quand il est dans un bon jour, il peut faire ce qu'il veut. Donc, effectivement, c'est une très grosse, je suppose, une grosse déception pour tout le monde.
Ah, j'aurais aimé parler avec le coach après la rencontre, hein, parce que là, il y a...
Et qu'est-ce qu'on s'est ennuyé,
ça devait être dur. Parce qu'en fait, il faut imaginer une chose, c'est que là, il est Évreux, qui était quasiment intraitable à domicile, on le rappelle, hein, 8 victoires, 1 défaite, avant cette rencontre, a été mené tout le match. Je crois qu'on passe devant à la 31e, 32e.
Alors déjà, on commence le match très fort, après 8 minutes, on est à 9-23. Déjà, en termes de match complètement pourri, effectivement, on ne passera pas devant avant 6 minutes de la fin du match, en fait. On passe à 62-61, donc pendant 3 minutes, on est devant, et après, ben, on repasse derrière, et
alors,
c'est fini.
Il y a petites histoires. On aura 5 de faute en 2 minutes dans le premier quart.
Ouais.
Mérité, non mérité d'ailleurs. Ouais, il est pas tôt, écoute, notre ami Tigue un peu quand même.
Elle s'enchaîne, mais moi, je n'ai pas vu de gros scandales. D'accord. Niveau arbitrage non plus. Après, c'était de l'autre côté du terrain, donc tu vois, c'est aussi plus dur de voir.
Pour passer devant, je crois on colle un truc comme un 17-2, un truc comme ça.
Ouais.
Pour passer devant, avoir 5 points d'avance, on se dit bah, 66-61, il reste 5 minutes à jouer. 3 joueurs à 4 fautes chez Saint-Quentin, bon, bah, c'est pas compliqué, hein. On va rentrer et puis on va aller provoquer ça. Et derrière, en fait, on prend un 14-2, un truc comme ça.
Bah, c'est très facile à expliquer. C'est juste qu'il n'y a pas de secteur intérieur. Il n'y a aucune volonté de retrouver le secteur intérieur. Tu as un meneur de jeu.
C'est ça, hein, je pense que c'est même Léo Konaté, il a du mal à trouver l'intérieur. Hein.
Tu as un meneur de jeu causé qui met 15 secondes à ressortir le ballon de son camp et qui, une fois qu'il est arrivé à la ligne de 3 points, regarde ses pieds. Et donc, du coup, il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait... pas de volonté de transpercer la défense. Le secteur intérieur, c'est, il y a Matisse qui met 14 points en sortie de banc, Tigue met que 5, Var 9 et Keita 2. C'est vraiment, il n'y a pas eu de points venant de l'intérieur. Les seuls qu'on surnageait un petit peu, c'est Konaté qui met pas mal de points, bon, qui a fait pas mal de pénétration, mais aussi de l'extérieur, mais qui n'est pas collectif pour dessous non plus, qui joue pour lui. Il a eu l'impression qu'il pouvait un petit peu sauver le monde, j'ai l'impression, sur ce match-là.
Il était peut-être le seul aussi dans l'envie après.
Il était peut-être le seul dans l'envie.
Il y a un vrai problème cette année. Ouais, le vrai problème, c'est la transmission, la relation intérieur-extérieur qui ne marche, marche pas du tout. Le seul qui fait des passes à Tigue pour l'instant, c'est Matisse. Donc c'est quand même symptomatique de quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense que Tigue aussi doit se bouger parce qu'à ce moment de la saison, il devrait être beaucoup plus affûté qu'il ne l'est. Moi, je le trouve très pâteau, comme tu dis. Hein. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui avait un gros potentiel. On l'a vu sur des vidéos. Et je pense que quelque part, il faudrait quand même qu'on les bouscule un peu. Maintenant, voilà, qui fait quoi, ben, je ne sais pas. Mais c'est un vrai problème. On a perçu ce problème dans le groupe. Qui vit bien, hein. C'est des bons gars, ce que je disais la semaine dernière, ils sont sympas, mais je trouve qu'ils n'ont pas cette culture de la gang, cette envie d'aller voyager ensemble et de faire des trucs bien. Je suis vraiment inquiet, je pense pas qu'on va craindre le pire, mais Mais je vois pas comment cette équipe-là va se transformer en machine à gagner.
Ah, c'est la première équipe, moi, que je vois, il y a autant, aussi peu de cohésion. C'était la dernière où il y en a vraiment eu, c'est quand il y avait encore Wood, quand il y avait tout le monde. Depuis, au fur et à mesure, c'est de moins en moins. Et là, cette année, mais il n'y a pas de collectif. Quoi. On n'a pas l'impression qu'ils veulent aller dans le même sens. On a un meneur qui n'en est pas un, ça, on l'a dit pas mal de fois.
C'est vrai que si on mettait des évals générales sur Cosé et Tigue depuis le début de la saison, ça fait quand même.
Ouais, puis Cosé, le problème de Cosé, c'est que les gens, ils sont en émerveillement devant lui quand il marque 30 points, ouais, mais il joue tout seul.
Le problème, c'est qu'il joue. Et puis, c'est la différence parce que jusque-là, on se faisait chier à domicile, mais au moins, on gagnait. La différence qu'il y a, c'est que Cosé, il faisait déjà pas de passe, mais avant, il mettait 30 points à 3 points. Ouais. Là, il fait quoi? Il fait 1 sur 7 à 3 points, donc du coup, on perd.
Et voilà. Puis là, comme il commence à cibler, on l'a vu à Boulazac, il était complètement isolé du reste de l'équipe, justement, en défense. Et vu que c'est pas un battant, c'est quelqu'un qui a tendance à se planquer, et ben non, on n'arrive pas à sortir des. Enfin, à trouver un relais. Et là, je pense que Rémi Vallin, j'ai lu ce que mes confrères ont écrit, il va certainement faire jouer la concurrence. Il faut s'attendre à des changements. Peut-être remettre là où Konaté au poste de meneur, parce que ça a été c'est ce qu'il avait fait l'an passé. Il avait voulu il y a 2 ans, je crois, il avait voulu l'essayer à ce poste-là pour créer du mouvement. Mais par contre, la vraie problématique qu'il va falloir solutionner, c'est de trouver une relation extérieure-intérieure et une relation qui marche. Et ça va être. On n'a plus beaucoup de temps. Hein.
Bon, après, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a Drouot qui devrait revenir d'ici peu de temps. Parce que là, il était sur
la feuille.
Il était sur la feuille, donc ça veut dire que.
En tenue ou pas du tout, parce que je me suis posé la question.
J'ai pas fait gaffe, honnêtement. Je pense
qu'il était en tenue, mais il n'allait pas jouer, de toute façon.
Et c'est dommage, parce qu'on a aussi un mec comme Cordinier, qui est un petit jeune qu'on veut et tout ça, mais qui n'a pas de ballon, quoi. Et il se donne, va aller.
Ça ne peut pas être le sauveur non plus.
Non, mais voilà.
De toute façon, le sauveur, c'est
le collectif. On est d'accord.
Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a des joueurs qui ont faim de ballon, mais qui ne sont pas servis. Et donc, du coup.
On se prend une doudoune au rebond, je ne sais pas si vous avez vu.
Oui, c'est une catastrophe.
Le rebond, c'était censé être vraiment notre point fort cette année. Et surtout là on prend Matisse qui est quand même quelqu'un qui est vachement fiable. Tigue il prend pas beaucoup de rebonds quand même, il fait 2m10.
Le rebond 39-22 pour eux.
Ouais, 39-22, ouais.
Ah, on n'en a pas pioché un.
Enfin, 4 sur 20 à 3 points, mais puis on reste à 4 sur 20 à 3 points. Ouais. Quand même. Mmh. Bon, moi je 2 points. Moi je crois que ce problème de cohésion, j'espère que vendredi il sera en partie effacé. On rappelle qu'on reçoit Monaco, deuxième au classement, c'est une grosse rencontre, mais en même temps qui peut être intéressant parce qu'on va avoir une belle équipe en face.
Ça peut être intéressant et ça peut créer un vrai fossé. Hein,
ou un électrochoc. Et moi je vous conserve l'optimisme. On ne sait pas la semaine d'entraînement comment va se passer et comment va réagir Rémi Vallin. Il y a encore matière à espérer. Pour la simple et bonne raison que, d'un sens, quand on regarde le classement, il y a hier Toulon qui caracole, qui est intraitable et qui est la grosse surprise, mais avérée maintenant et qui est confortée. Monaco, Roanne, Denain sont des équipes qui n'ont que 4 victoires de plus que nous. Donc, dans l'absolu, ce qui est hallucinant, c'est que à cause de ces résultats à l'extérieur où 2-3 fois on n'était vraiment pas loin, moi je pense encore à Monaco, à Antibes ou quelques rencontres comme ça, où on n'était vraiment pas loin, et puis bon, ces 2 défaites à domicile préjudiciables, on aurait pu quand même être devant ces équipes-là ou à même hauteur et donc se bagarrer encore pour avoir une potentielle accueil en play-off. S'il y a un électrochoc et qui doit intervenir là dans les jours qui viennent, on peut espérer, parce que reste que non, individuellement je suis persuadé qu'il y a énormément de talent dans cette équipe. Maintenant, si la sauce ne prend toujours pas, parce qu'elle n'est toujours pas prête après 19 matchs, mais on ne sait jamais, avec une grosse adversité, peut-être une salle remplie qui encourage, peut-être, même si je vois dans les yeux dubitatifs de l'ami Phil Laguinche, peut-être, parce qu'on n'est pas si loin que ça, on n'est pas totalement décroché. Oui, on est négatif, mais en même temps, il y a plein d'équipes qui sont à 11 ou 12 victoires, donc ça peut aller vite.
Avec les matchs croisés, peut-être qu'on arrivera à se qualifier en play-off, mais je vois mal sur une série de play-off, je nous vois mal passer, honnêtement.
Je suis d'accord, mais je pense que... Tu dis c'est si près si loin parce qu'en fait là où tu vois sur une saison les matchs justement où tu perds de peu, c'est ceux-là qu'il faut gagner justement pour réussir à verser une tendance et à créer une dynamique. Là on n'a pas de dynamique du tout et je suis vraiment très très sceptique sur le reste de la saison. Et justement là on a 3 matchs, il y avait 3 matchs avec le Saint-Quentin, Monaco et le déplacement à Lille avant la trêve de la Leaders Cup. Ça peut être 3 matchs qui peuvent aussi créer complètement un fossé et pour le coup ne plus nous permettre de rêver à grand chose d'autre.
Sinon, on finit à 400 dans la salle Omnisport jusqu'à fin d'année.
Ouais.
Mince. Eh bien, affaire à suivre. Vendredi, déjà, on reçoit le Rocher.
Monaco, ça va être un bon rendez-vous quand même. Ouais, c'est important.
Pourvu qu'il se fende le Rocher sur les lames ébruissiennes, on verra bien.
Oh, c'est beau ça. On va chialer ça.
Quel poète.
J'ai envie de chialer. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Allez, 2-3 résultats locaux qui font plus plaisir du coup. Merci beaucoup, ami Guillaume de Pick-up, pour ses interventions et cette multi-polyvalence dans les salles de sport de France et de Navarre, parce qu'il était à Navarre et puis bah, du coup, il était à Nancy, le monsieur. On rappelle que Saint-Sébastien Sport Handball continue sa foisée de son enchaînage de résultats positifs, puisque les Loustics, tout simplement, ils l'ont encore remporté cette semaine, ce week-end. Jorly, vite fait, le message du coach Anthony Morel. Victoire de Saint-Cé à eux, 30-23, ce qui porte la série à 9 succès consécutifs. Ce n'est pas rien, la défense s'est une nouvelle fois illustrée, permettant à Adel Gasmi de réaliser une prestation homéresque avec 20 arrêts. J'aime beaucoup l'expression. Les professionnels cherbourgeois ont eux, nouveau perdu, ce qui porte notre avance à 6 points. Je parle bien sûr de Saint-Cé, sur Cherbourg et sur Deville, avec toujours un match en retard disputé le 21 février. Ça commence à sentir très très bon. On est ravis pour cette équipe qui mouille le maillot, qui fait plaisir et qui a des résultats. Bravo à Saint-Sébastien Sport. Handball, j'en ai parlé en préambule. On parlait basket féminin. Excellence régionale avec malheureusement des choses vilaines dans les gymnases des doux noms d'oiseaux. Même, c'est même pas des doux noms d'oiseaux, c'est des vilaineries qu'on entend dans. C'était à Offranville. Et ben justement, les victoires de l'EAC à Offranville, 68-52 avec une belle victoire collective. Ça, c'est en excellence régionale EAC filles. Et puis en N3, défaite 68-53. À Sartrouville, le maintien se joue dans 15 jours et à la maison contre Cergy. Voilà, au revoir Philippe, à vendredi normalement, on va se rappeler, pas de problème, on repart en musique pour faire la place belle enfin à la petite reine, désolé, on a tardé, on leur avait promis que vers 13h-13h10 on sera à l'antenne avec eux et on a complètement tardé avec les gros bavards que nous sommes. Tout de suite maintenant, une mini pause musicale et on parle du VCE qui le mérite tant. Voilà, tout de suite, dans quelques instants.
Is a ghost. Quick step to losing all of what was preset. My mind is a ghost. Shipwreck. My mind is a ghost. Incorrect. My mind is a ghost. Quick step to losing all of what was preset. And if it was up to me, I would learn my ABCs and cross seas and hire people to plant trees. If it was my choice, no sound would be bad noise. Everyone's coming round will be the sound of the voice. If it was my word, conquer would never be heard. As a new baby is born, a new language is learned. But it's up to us, tell each other apart and be lies. The human race communicates, living on.
My mind is a ghost. Shipwreck, my mind is a ghost. Incorrect, my mind is a ghost. Quick step to losing all of what was preset. My mind is a ghost. Shipwreck, my mind is a ghost. Incorrect, my mind is a ghost. Quick step to losing all of what was preset. And if it was through my eyes, there would be no surprise to eliminate crimes in the entire mankind. If it was me to think about how we are linked, I'd admire the skins, the furs, and the minks. For what's my decision? I'd make a final incision. Stop them, close, I'm giving humans night vision. But it's up to us, minds dressed or naked. Human generation, will we make it or break it?
I see kids reaching high, whispers open to defy. Crooked fields from gray light, catching joy in one hand. And I think to myself, damn, what a beautiful world.
My mind is a ghost. Shipwreck, my mind is a ghost. Incorrect, my mind is a ghost. Quick step to losing all of what was preset. My mind is a ghost. Shipwreck, my mind is a ghost. Incorrect, my mind is a ghost. Quick step to losing all of what was preset. My mind is a ghost. Shipwreck, my mind is a ghost. Incorrect, my mind is a ghost. Quick step to losing all of what was preset. My mind is a ghost. Shipwreck, my mind is a ghost. Incorrect, my mind is a ghost. Quick step to losing all of what was preset.
Quelle était-ce?
Random Recipe, je n'ai pas su exactement comment on disait. C'était en tout cas ce samedi du côté de l'abordage. Et c'était plutôt sympathique.
Très bien, on fait la part belle aux deux roues non motorisées, mais quoique des fois quand on voit ce qu'ils envoient les mecs dans les jambes, on se dit ouais, il y a un moteur dans chaque mollet, c'est pas possible. On parle bien sûr vélo, on va parler vélo avec le plaisir de vous recevoir messieurs pour le VCE, Vélo Club Ébroïcien hein, du coup, hein, c'est bien ça hein.
Oui c'est ça, oui. Enfin officiellement c'est Vélo Club d'Évreux,
voilà.
Mais bon on a enregistré d'une autre façon au niveau de la
Vélo Club Énergumène,
la cohésion sociale, c'était déclaré parce que il y avait des fois avec les dossiers, on se perd un petit peu, c'était marqué Vélo Club Ébroïcien. Il avait été déclaré comme ça à l'époque, en 1926. Et nous, mais bon, officiellement, c'est Vélo Club Évreux, quoi. Mais bon, c'est Vélo Club Ébroïcien.
Alors, président, on rappelle quand même le président. Merci beaucoup, Yvan, d'être présent. Et donc, on rappelle, accompagné à la fois de Laurent et de Patrick, qui sont éducateurs et entraîneurs au club. Voilà, pour situer la chose. Pardon, Guy Mouquet.
Oui, et alors, justement, on va
1926, t'as entendu comment ?
1926, oui. Donc du coup, on a une première réponse à nos questions qui était depuis quand existe le VCE ? Donc 1926, quelles sont un peu les valeurs que défend le club ? Est-ce qu'il y a des mots forts, des concepts forts, des idées fortes au sein de votre club ?
Le caractère, l'effort physique. C'est vrai que c'est un sport très dur, mais bon, quand on est motivé, on arrive à surmonter beaucoup de choses.
Est-ce qu'il y a des objectifs particuliers, que ce soit en termes de compétition ou de formation, d'école de vélo, etc. Est-ce qu'il y a des voilà, vous êtes donné une ligne à suivre et qui seraient vos objectifs?
Oui, il y a eu une équipe élite ces dernières années qui n'existe plus. Donc maintenant, on est reparti avec des coureurs de second plan. Alors, il y a des catégories au niveau des seniors. Il y a première, deuxième, troisième catégorie. Et après, il y a la catégorie départementale. Donc nous, on essaye de refaire notre équipe senior, si on peut l'appeler maintenant comme ça, notre équipe senior première. C'est des coureurs de deuxième et troisième catégorie. Et puis, on essaye de maintenir une petite équipe départementale aussi, familiale, qui permet de faire de courir en loisir et puis de se faire plaisir à faire des compétitions. Et puis là, depuis un an ou deux, là, on a essayé de remonter une petite école de cyclistes et qui apparemment suit son bonhomme de chemin. Et là, on a quand même une dizaine de gamins. Et donc, on est reparti sur une pente ascendante.
Comment on passe d'une deuxième catégorie à une troisième ou d'une deuxième à une première ? C'est des victoires collectives, c'est des points. Comment on calcule les échelons à votre niveau ?
Oui, là, il y a les deux. Il y a une quantité de victoires. Donc, je crois que les passer de 3 en deuxième catégorie, je crois que ça doit être 5 victoires. Mais il y a aussi...
Individuel, collectif, c'est des victoires
comment ? Non, c'est individuel.
D'accord. Il faut que des joueurs portant du club, les couleurs du club, dans des courses annexes, dans le département, la région, aient remporté des courses, en fait.
Oui, c'est ça. Même au niveau de la France. Hein, d'accord. De toute façon, c'est au niveau de la Fédération française de cyclisme. Donc, dès lors où un coureur gagne des courses...
On appelle ça comment des critères des courses régionales, des courses comment, pardon, de vous recouper, hein, mais...
Oui, alors on est en course régionale, même à différentes catégories. Maintenant, il y a la catégorie départementale, ou qu'on appelle départementale, mais en fin de compte, ce sont des petites courses qu'on trouve un petit peu partout et qu'on peut faire partout, hein, de toute façon. Mais sinon, toutes les épreuves, que ce soit deuxième, troisième catégorie ou départementale, les coureurs qui remportent des courses et qui marquent des points, puisque c'est souvent dans les 5 premiers. Il y a aussi une différence de réglementation selon les régions aussi, parfois. Mais c'est une question de points et de victoires.
Combien d'adhérents à votre club, le Vélo Club Ébroïcien ou Vélo Club d'Évreux ? Alors combien ?
L'année dernière, on était à peu près une centaine d'adhérents. Il y a environ 70 licenciés, plus des adhérents qui viennent renforcer le club, qui viennent participer aux organisations ou à des jeunes qui viennent participer à nos entraînements en attendant de progresser et de prendre une licence par la suite.
Justement, ces jeunes, vous évoquiez tout à l'heure une dizaine d'enfants, de jeunes qui font partie du club. Est-ce que, comment c'est réparti ? C'est essentiellement des adultes ? À partir de quel âge ? Ou il y a quand même quelques ados, quelques jeunes qui fréquentent votre club ?
Alors, les jeunes, on parle des jeunes, on parle d'école de cyclisme et qui va jusqu'à la catégorie minime, c'est-à-dire 14 ans. Donc ça peut démarrer des fois de bonne heure, parce que je trouve que c'est même un peu tôt parfois. On a des gamins qui ont 6-7 ans déjà qui démarrent. Et donc ça va jusqu'à... Donc c'est poussin. On appelle les tout premiers, quand ils ont 6 ans, ça doit être les pré-licenciés. Ensuite, c'est la catégorie poussin, pupille, benjamin et minime. Donc ça, c'est l'école de cyclisme. Puis après, à partir de 17-18 ans, ce sont les juniors qu'on peut classer soit en départemental, soit en deuxième ou troisième catégorie pour courir à un niveau au-dessus.
Du coup, messieurs, vous, vous êtes entraîneur, c'est ça, au sein du club. Il y a combien d'entraîneurs comme vous, Patrick et Laurent, qui aidaient à encadrer, qui menaient les courses ou,
Bah, je crois que au sein du club, je crois qu'on doit être à peu près 6-7 entraîneurs. Je
D'accord.
Crois.
Ouais, avec ça, des crois. Spécificités ou vous alternez, c'est-à-dire bah, là, moi, dispo, je peux m'occuper de ce groupe-là ou vous avez vos groupes préférés?
Non, non, on se demande, bon, bah, on se dit, bon, tiens, tel jour, week-end ou tel mois, bon, bah, je suis libre, je peux prendre l'encadrement pour telle étape, qu'on va, les courses à étapes, ou, voilà.
D'accord.
Oui. Vous êtes bénévole, c'est ça? Vous n'êtes pas salarié?
Ah, pas de salarié, on n'a pas encore posé.
Tous bénévoles, voilà.
Ouais, donc, on n'a pas de salarié. Il y en a eu deux quand il y a eu une équipe élite ces derniers temps. Avec l'ancien président, avec Luc Borgogno. Et quand l'équipe élite s'est arrêtée, Luc avait démissionné. Et donc, il a fallu retrouver un autre président. Donc, c'est moi qui ai repris. Et on a reparti sur une nouvelle base. Quoi.
Très bien. C'est quand, du coup, les rendez-vous, les entraînements, si on veut se rapprocher du club, on veut voir comment ça se passe?
Il y a les sorties d'entraînement le mercredi après-midi, pour l'instant, 3h30.
D'accord.
Et quand il y a le changement.
Durée 3h30 ou non, le départ, 15h30
le rendez-vous. Le départ 15h30 à la salle Unisport.
Parce que là, on flippe, hein, si vous me dites attention en mode côte
mais
et tout.
Donc, départ 15h30 et le retour vers 18h, 5h, 17h30.
Le rendez-vous est toujours au même endroit?
Toujours au même endroit, depuis je ne sais pas combien d'années, mais c'est toujours devant la salle Unisport.
D'accord. Voilà.
Et comment ça se passe ces entraînements-là? Est-ce que vous restez tous en groupe? Ou il y a différents groupes selon le niveau et du coup
Laurent on l'a pas encore beaucoup entendu.
Certains vont plus vite parce que voilà ils ont un meilleur niveau et ils attendent pas les autres ou vous courez tous ensemble?
Non, on part tous ensemble. Là, le minime cadet, il y a des seniors qui encadrent et bon il y a les véhicules qui suivent et bon après on fait l'entraînement comme ça. Hein, on fait un rythme et puis voilà.
C'est-à-dire qu'il y a eu une certaine époque, il y avait un entraînement toute catégorie, puisqu'il y avait les seniors. Que là, le mercredi après-midi, ce qu'on fait, c'est une catégorie basée sur les minimes et cadets. Donc et là, on part tous ensemble, et là, il y a un moment, on coupe le groupe en deux, puisque les minimes ont un niveau quand même moins important, et puis ils font une distance normalement plus courte.
D'accord. Ça tourne autour de combien de bornes, à peu près?
Bon, les minimes, ils font 35 km à peu près.
Quand même.
Oui, même ils font même un peu plus en ce moment parce que on les pousse un peu plus, mais disons que
on les habitue un peu.
ils montent même jusqu'à une cinquantaine de kilomètres, et les cadets peuvent monter jusqu'à 60, 70.
D'accord. Et uniquement du travail physique, est-ce que par exemple il y a le club où vous les motivez à aller en salle de sport, il y a de la vidéo, il y a un peu de tactique, comment ça se passe les entraînements? Il reste quand même vraiment le guidon, le vélo et les jambes, ou il y a en même temps du conseil d'anciens un peu comme vous, voilà, sur des finesses de je suis la roue, là je sais que je peux attaquer, comment ça se passe toutes ces discussions?
Bah, c'est-à-dire qu'on leur apprend quand le vent est de côté à faire des bordures. Parce que le vélo, c'est ça aussi.
Alors, par exemple, on tient compte des conditions météo.
Bah oui, exactement.
Donc, le vent de côté, vous dites?
Oui, quand le vent est de côté, on fait une bordure. Alors, s'il vient de gauche, on tourne du côté...
Le protège, en fait. Une bordure, c'est quoi?
C'est-à-dire, chacun prend son relais. Ça tourne, quoi, comme on dit.
Voilà. D'accord. Ouais, c'est intéressant.
Il y a un côté qui descend, il y a un autre côté qui monte, voilà. Suivant le vent et... Voilà.
Ça, en fait, ça sert à ce que chaque
protégé.
Celui qui prend le vent protège les autres. Voilà. Et en fait, ça tourne comme ça. Chacun joue sa partition et protège l'autre. Et ça doit alterner. Normalement, on le voit aussi dans des compétitions. Il y en a qui passent pas leur relais justement pour garder un peu d'énergie en fin de course, etc. Là, il y a de l'aspect tactique.
Mais quand en course, il faut reconnaître le circuit avant de partir parce que on peut se faire piéger. Si on est mal placé,
il y a des endroits où on peut attaquer plus logiquement.
Non, mais une bordure peut se faire devant et puis derrière le gars qui est mal placé, il est piégé et
qui est un peu faible.
L'échappée se fait et c'est foutu quoi. La course est jouée.
Un trou, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, puis après ça y est.
Après, faut faire rouler toute l'équipe pour réussir à revenir.
C'est-à-dire que souvent les meilleurs sont devant et derrière ça s'organise pas et puis la course est jouée quoi. Voilà.
Voilà, donc tout ça, c'est toute la partie technique. Donc c'est ce qu'on leur apprend aussi. Il y a d'un côté, il y a le physique et toute la partie technique qui est importante dans le vélo.
Il y en a, c'est comme toute discipline, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, la connaissant moins cette pratique sportive, je suis très curieux. Au niveau matériel, est-ce que le club dispose de, par exemple, quelques vélos pour des gens qui n'auraient pas les moyens? Et d'ailleurs, j'allais vous poser la question, combien ça coûte maintenant un vélo honnête pour pratiquer, ou une fourchette de prix? Est-ce que les jeunes ont leur propre vélo ou ça appartient au club, une mise à dispo? Mais j'imagine que c'est très individuel sur la hauteur, le réglage et tout ça. J'imagine que ça reste très individuel et très personnel, un deux roues. Est-ce que le club conseille, oriente ou a du matériel à partager?
Bah, on a du matériel chez Yvan au local. Et donc, pour les jeunes, les minimes, qui n'ont pas trop les moyens, on leur prête un vélo.
Ah, vous avez quand même un ou deux vélos en stock.
On a des vélos
en dépannage, éventuellement.
C'est cool.
Pour la route. Ça, c'est pour la route.
Et puis, après, plus tard, s'ils veulent vraiment prendre en compétition, ils achètent leur vélo.
Bien sûr.
Et là, on leur dit, c'est à peu près la hauteur qu'il leur faudrait. Parce que...
Combien ça coûte un vélo
un vélo correct, il faut compter 1000 euros. On a quelque chose de correct.
Correct, ça veut dire que ça peut monter, j'imagine, pour un très bon vélo, bien plus cher.
Beaucoup plus cher.
Je m'en rends pas compte.
J'ai un copain, il a acheté un vélo 6000 euros. Bon, là, c'est vraiment...
D'accord. Timothée?
Moi, j'ai pas les moyens d'acheter un vélo à
600 euros, on peut trouver des vélos corrects.
Il y a même des vélos d'occasion, il y a des bons vélos d'occasion.
Est-ce qu'il y a des normes, par exemple, au niveau du poids, pour même faire des compétitions locales? Est-ce qu'il y a des impératifs techniques? Je veux dire, une taille de roue, un poids de...
C'est des roues 700, pas. Les vélos de course.
D'accord.
Ouais. Mais dans notre catégorie, tout ça...
Ça rentre pas en compte, le poids de matériel, les réglages, d'accord.
C'est-à-dire que l'UCI a réglementé les vélos à 6,7 kg, je crois. Ça doit être
pour
ça.
Les grandes compétitions, d'accord. Tour de
France... Parce qu'ils ne veulent pas que ça soit trop fragile, quoi.
D'accord, oui. Si le gars casse le nez, ouais. Les couleurs du club, on n'en a pas parlé. Elles sont jaunes, blanches, rouges.
Bleu, jaune et bleu.
Jaune et bleu. Un peu aux couleurs d'Evreux, en fait.
Voilà.
D'accord.
Dans le temps, c'était rouge et noir.
D'accord.
Oui, ça a changé.
Parce que petit aparté, pardon Guy, okay, je te recoupe la parole. C'est qu'hors micro, ces messieurs-là, quand même, c'est incroyable. Yvan, je pense que ça fait très longtemps aussi que vous êtes au club. On va y revenir dans la deuxième partie. C'est que Laurent et Patrick, je ne me suis pas trompé, se connaissent au club depuis près de 40 ans.
Plus de 40 ans.
Plus de 40 ans, même. Ouais. C'est quand même énorme, la fidélité au club. Et même pas été voir ailleurs dans un autre club. Un petit peu,
mais pas longtemps.
Moi, c'est pareil.
D'accord, bon, ouais, classe. Pardon.
Bah, Yvan, je connais depuis la maternelle. On a été ensemble.
Alors, avec Patrick, c'est la maternelle Victor Hugo, et avec Laurent, c'est la primaire. Quand on est passé en primaire. Primaire Victor Hugo.
Victor Hugo, d'accord. Ouais,
d'accord. Donc, les liens existaient avant même le vélo, en fait.
Oui.
C'est ça.
Oui, oui.
C'est ça qu'il faut retenir. Et du coup, de vous retrouver comme ça autour d'une passion commune, ça soude forcément les liens, quoi.
Oui, parce que je pense qu'on est encore plus fort. Ce sont des liens très, très, très forts qui nous permettent d'aller plus loin, quoi.
Très bien. Moi, je voulais faire la transition un peu avec la deuxième partie, parce que vous avez commencé un petit peu à en parler quand vous parliez du Tour de France, de l'UCI, etc. Je voulais avoir un peu votre regard, votre sentiment sur plus largement la discipline sportive qui est le cyclisme. Notamment sur peut-être le Tour de France, sur les affaires de dopage, inévitablement, parce que ça a été sûrement le sport le plus pointé du doigt. Non pas que je pense que ce soit le sport où il y a le plus de dopés, la nuance est quand même assez importante, mais le sport certainement le plus fliqué, pardonnez-moi l'expression, mais depuis l'affaire Festina, c'est une réalité, c'est le sport sans doute le plus contrôlé au monde, et donc forcément qui décèle le plus de cas de dopage. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de tout ça, et comment on arrive à justement à améliorer l'image d'un sport qui peut avoir une certaine image un peu négative, un peu ternie, notamment par les médias? Comment vous arrivez à transmettre cette passion du vélo aux jeunes?
Vous êtes
jeunes.
le premier coup de pédale justement sur la discipline. Fait bien de le souligner, Guy Moquet. C'est vrai qu'il est intéressant votre regard là-dessus.
On a la chance d'avoir un Tour de France qui, en fin de compte, est la plus grande épreuve au monde, qui est chez nous en France. Et quand on voit l'importance de l'épreuve, comment qu'elle est médiatisée, il y a énormément d'argent en jeu et c'est énormément médiatisé. Et donc il y a des enjeux importants. Et forcément, il y a toujours, c'est un petit peu comme dans tous les domaines, que ce soit n'importe où en politique. Et là, il y a des dérives. Voilà. Donc malheureusement. Donc,
mais vous, est-ce que par exemple, club amateur, comme en France on pourrait imaginer, je pense que Guy Moquet avait raison sur la question, est-ce qu'il y a des... La fédération est venue vers vous en disant parlez bien auprès de vos jeunes, est-ce qu'il y a un discours particulier, est-ce que malheureusement vous l'êtes déjà confronté vous dans vos jeunes, dans les courses qu'ils font avec d'autres clubs ou autres, vous sentez qu'il y a quand même des choses bizarres, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un discours particulier et comment on réagit face à la chose, ou pas du tout, hein, ça se trouve ça vous gonfle nos questions et on passe tout de suite à autre chose, mais c'est vrai que le regard il est intéressant parce que vous êtes un vrai club qui formait en même temps, qui donnait envie de faire cette pratique sportive, vous me paraissez extrêmement sain, mais comment on le traduit ça à ces plus jeunes, comment on...
Non mais après je pense que c'est ça dépend des caractères, des différents caractères des individus qu'on peut rencontrer. Là quand on débute nous, quand on fait débuter des jeunes le club, ils viennent pour le sport comme la plupart des jeunes vont à la rentrée au mois de septembre, on choisit leur sport, c'est pour pratiquer. Donc nous on n'a pas de problème
Le 06 ouais. du docteur italien on le garde quand il a 20 ans et...
donc après selon les mentalités, selon les progressions, selon le niveau auquel le jeune peut arriver, il peut commencer en discutant comme ça, on pourra peut-être apprendre à le connaître et puis voir que lui il sera peut-être pour
Moi j'ai un malheureux souvenir hein, d'avoir croisé une jeune fille qui avait 15-16 ans et qui commençait à bien tourner a priori. Dans le département, je faisais autre chose, j'étais en atelier. Et donc j'ai cette petite jeune qui avait arrêté le vélo parce que justement, ses entraîneurs, elles n'étaient pas d'Evreux. J'aurais pas honte de le dire, mais c'est pas le cas. Et qui voulait qu'elle prenne quelques produits pour encore améliorer en fait ses performances, qui étaient, il semblerait, déjà très bonnes. Et ça l'avait, elle, bloquée, et elle avait arrêté. Et ça m'avait grandement surpris parce qu'en fait, on était dans le cyclisme féminin, qui est un petit peu moins coté, mais qui l'est tout de même. Et on était sur une gamine de 15-16 ans. Et je me disais, en fait, ce que j'entends dans le Tour de France, en fait, ça existe déjà en bas. C'est ça qui m'avait inquiété à l'époque, en fait. Donc, j'espère seulement que j'imagine que ça existe dans beaucoup de sports, ça, il n'y a aucun souci. J'espère juste que c'est un exemple à part, puisque c'est vrai que, ça faisait suite de s'apercevoir de ça, une petite jeune, 15-16 ans, véridique. Hein. Et ça m'avait un peu chafouiné, la chose. Bon voilà, c'était la petite aparté, mais bon, c'est surprenant.
Ah ben, c'est sûr, quand il y a des jeunes qui se laissent un peu tenter ou qui sont faibles, ils prennent au jeu. Hein, et après, pour se sortir de là...
Se laisse attirer par la facilité. Hein.
Ouais.
Ouais. Mais là, comme vous dites, là, ça venait d'entraîneur. Alors, c'est même encore pire.
Ouais, c'est flippant.
Donc, ce que je disais, c'est une question de caractère des individus. C'est comme en politique, il y a des choix à faire dans la vie et là, il y en a qui font le choix, qui sont pour. Bon, donc c'est cela qu'il faut éviter absolument. Et puis essayer de les remettre dans le droit chemin.
Une dernière question autour du cyclisme professionnel et notamment du Tour de France. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles générations ? On pense à Romain Bardet, Thibaut Pinot, qui commencent à faire des résultats au meilleur niveau. Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est une génération qu'on reconnaîtra pas forcément plus tard ? Ou il y a un vrai vivier en France pour laisser la place à des futurs champions et pourquoi pas enfin un Tour de France gagné par un Français ?
C'est difficile de prévoir un peu ce qui peut se passer dans le Tour. Bon, on retrouve quand même plus ou moins les mêmes leaders quand même. Mais bon, là, on a eu une grande surprise l'année dernière d'avoir quand même des Français qui sont vraiment bien défendus. Après, est-ce que ça va continuer ? Un coureur peut faire une bonne saison et puis avoir du mal à s'en remettre pour l'année d'après et être moins bien. Donc, apparemment, oui, c'était une belle année. Bon, pour les Français, donc espérons que ça continue. Mais on verra, c'est difficile de prévoir.
Hein. Au club, vous, Yvan, ou d'autres, avez déjà été dans une équipe qui a fait un tour ou autre ? J'ai eu ce souvenir-là qu'on m'avait évoqué la chose. C'est vous-même, Yvan, peut-être ?
Oui, moi, j'ai fait deux fois le tour.
Deux fois, voilà, ouais. Il me semblait bien. Mm-hmm. C'était dans les années 90, 80 ?
1984 et 1985.
D'accord. À l'époque, vous portiez quelle tunique, alors ?
Alors, en 84, j'étais dans l'équipe Système U. Avec Jean-René Bernedeau. Et puis l'année d'après, je suis passé dans l'équipe Peugeot avec Gilbert Duclos-Lassalle, Pascal Simon, Robert Miller.
C'était super, des super mecs, ça je suivais à fond et tout. Ah ouais, intéressant. Donc la grande bouffe. Vous l'aviez fini les deux ?
Oui, oui, j'ai
bravo.
Fini.
Oui. Bravo, moi je crois que déjà
crois
c'est
que
ça.
C'est pas évident.
Ouais. C'est à un moment donné, c'est même plus bon. À un moment donné, il y a les pros et tout, les grands.
74e.
Ah ouais,
68e et 69e.
Voilà. Alors heureusement que j'ai mon équipier Laurent qui a pour rattraper le coup.
Ouais, c'est bien.
Et puis, j'ai une anecdote, c'est que
respect.
Quand, Quand j'ai vu Yvan gagner le Tour de Normandie, parce que c'est ce qui l'a fait passer professionnel. Quand il a gagné le Tour de Normandie, je pense que ça a joué pour passer pro, parce que c'était une grande course quand même amateur. Et quand je l'ai vu gagner, je dis merde. Ça m'a mis les larmes aux yeux. C'est au Champeau que tu avais pris le maillot.
Ouais. Mmh.
Et l'année d'après, je me suis même entraîné tous les jours et j'ai gagné des courses en amateur, enfin
ouais.
En régional, quoi. Mais je me suis mis à marcher. Et,
parce que ça donnait envie,
oui,
quoi.
Voilà. Oui, parce que je me suis dit, en ça junior, j'étais pas à son niveau, mais il a toujours été meilleur que nous, hein, parce que bon, peut-être qu'il est issu du vélo, oui. Et puis il a commencé le vélo tôt, Yvan, par rapport à moi. Mais ça m'a motivé, et après, j'ai gagné des courses, quoi.
Voilà, il suffit qu'un d'entre nous arrive à faire une petite perf quelque part.
Ça attire les autres, quoi.
Voilà, ça entraîne
les
autres.
C'est cool.
Et puis c'est pareil, j'ai compris le vélo à cette époque-là, parce que je me suis mis à courir beaucoup aussi. Et c'est ce qui fait progresser.
Il existe toujours ce championnat de Normandie ou
le
pas
Tour de Normandie,
le Tour de Normandie.
Oui,
Normandie, oui. D'accord. Justement, il était en difficulté ces derniers temps avec la nouvelle tarification des services de gendarmerie. Et là, c'était.
Merci, vous relevez un truc, c'est qu'en fait, pour l'organisation, il faut faire appel aux gendarmes pour le bouclage du trajet, c'est quoi?
Alors, les organisations importantes, notamment les courses ville à ville, oui, on a besoin aussi de l'encadrement de la gendarmerie pour la sécurité de l'épreuve.
Ah, c'est...
Et moi, je suis bénévole autour de Normandie.
D'accord, par exemple. D'accord.
Je m'occupe de l'arrivée, mettre les barrières, les banderoles, toutes les affiches.
Ligne, c'est cool, messieurs, bravo. on en sait un petit peu plus sur votre passé sportif à vous, Yvan. Est-ce que d'ailleurs, vous trois, messieurs, vous n'avez fait que du vélo? Vous avez aussi d'autres pratiques? Vous courez un peu? Vous avez fait du foot à une certaine époque? Je ne sais pas. Patrick, le passé de sportif, ça a toujours été autour du guidon?
J'ai fait un petit peu de foot, mais pas longtemps. Puis après, j'ai rencontré Yvan à la maternelle. Et puis, c'est lui qui m'a fait faire du vélo sur le petit jardin au Bélébal.
D'accord.
Où maintenant, c'est la nouvelle médiathèque. Où je sais plus quoi,
SMAC.
SMAC.
Voilà. SMAC de musique. Salle de musique actuelle.
Notre petit rond-point, là, il est parti.
Mince.
Ah oui, effectivement, à la place de la SMAC maintenant, qui est presque finie, il y avait une petite piste. Sur les jardins.
Oui, je vois bien, ouais. J'ai
une petite piste. Et moi, j'avais débuté un petit peu là-dessus, puisque c'est mon père qui m'a emmené faire du vélo là-dessus, quand j'avais appris, mais tout gamin. Et nous, avec Patrick, on était déjà retourné plusieurs fois aussi là-dessus. Mais là, elle n'existe plus.
Ouais, elle n'existe plus. Il y a 2-3 jeux, ouais. Puis, Et vous, Laurent?
Moi, j'ai commencé par le rugby.
D'accord.
Mais j'en ai pas fait longtemps parce que je préférais le vélo, quoi.
Donc, toujours aussi fidèle au vélo. Ouais. Donc, vous pratiquez encore tous les trois, messieurs, puisque vous êtes entraîneurs. Sur le guidon ou un peu moins maintenant quand même?
Je pratique plus beaucoup.
Ouais. Laurent encore et Yvan, oui.
Oui.
Ouais. C'est vous qui êtes emmené sur la route très régulièrement. Voilà. D'accord. Ouais, c'est beau, c'est grand. Voilà. Le lien avec la fédération, on a demandé. Alors, on n'a pas demandé le prix d'une licence chez vous pour être licencié, c'est combien?
Alors, une licence pour les jeunes de l'école cycliste à minime, cadet junior, ça tourne aux alentours de 40-50 euros. Et puis
c'est extrêmement bas.
Oui, pour les jeunes. Oui, mais comme le cycliste, on peut dire, il est quand même un petit peu en difficulté. Je pense qu'il faut pas mettre les licences trop hautes. Et puis après, il y a une question de niveau. Quand on arrive en catégorie senior, là, selon les catégories, là, le prix augmente puisque
d'accord.
En troisième catégorie, je crois que ça doit être autour de 110 euros et puis 160 ou 180.
C'est une part à la fédération, j'imagine.
Oui, oui. C'est la part fédération, ça. Oui.
D'accord. Le lien après avec les partenaires privés ou subventionneurs, on vous êtes lié aussi vous à la mairie d'Évreux comme beaucoup d'associations ou vous êtes indépendant, vous arrivez avec des partenaires privés?
Ah non,
vous
non,
en
bien
sortir.
Sûr, on est avec la mairie d'Évreux et puis la ville d'Évreux et puis on a aussi la société SOGEA aussi qui nous aide depuis cette année. Oui.
D'accord.
Et puis on a quelques petits partenaires qui sont fidèles aussi, comme les cycles Chasseret, l'auto-école Scarano, on a des petits. Il y a Groupama qui nous aide. Il y a
ouais, parce que c'est important pour le matériel, pour les déplacements.
Oui, oui.
Pour
surtout les déplacements, ça revient.
Ouais.
On a Interflora aussi qui nous aide avec le Saint-Michel Fleur. On a quand même pas mal de petits partenaires. Donc, qui restent fidèles avec nous, Pro B, qui nous aident. Quoi.
Alors, qu'on dise que c'est bien ou pas bien, c'est pas la question, mais la réalité des faits veut qu'actuellement sur Évreux, on nivelle un petit peu les associations, on freine un peu, on coupe des robinets. Vous l'avez vécu aussi, a priori, on disait tout à l'heure, vous parliez de votre course
Paris-Évreux.
Paris-Évreux, donc moins de subventions en tout cas cette année.
Oui, donc il y a eu une baisse de subventions qui a été annoncée.
On peut la quantifier, c'est 5, 10, 15, 20, 30?
Ah bah pour nous, c'est 5 000 euros, hein, puisque nous, on avait un fonctionnement de 15 000, et puis on avait une subvention pour l'épreuve de Paris-Évreux, qui était de 5 000. Et donc, les deux subventions étaient regroupées en une, avec une diminution de 25 %, c'est-à-dire qu'il y avait 5 000 euros en moins. Donc, c'était la subvention complète de l'épreuve, quoi. Paris-Évreux donc, est donc annulée.
Mince. Bon, et du coup, ouais, ça complique un peu les choses, bon, surtout sur cet événement-là. Le club vit bien tout de même, on l'a entendu, les rendez-vous le mercredi après-midi à 15h30 devant la salle Omnisport. Qu'est-ce que vous auriez à espérer, vous, président Yvan et vous, Laurent et Patrick, qu'un petit jeune s'en sorte et que du coup, il devienne pro, que le club grandisse de bénévoles et se restructure encore plus grandement. Quels seraient les souhaits aujourd'hui du VCE, si on peut aller dans l'ordre, Patrick, sur ma gauche?
Bah, que certains jeunes ont les capacités, bon, il faut voir après à la suite, au fil des années. Mais je pense que on peut sortir.
Vous êtes en mesure de sortir un jeune ou deux.
Oui, je pense. Oui. Il y en a qui ont un
potentiel intéressant. Et pour la vie du club, un souhait en particulier, bah, plus d'encadrants, un salarié, de venir avec une équipe senior élite ou c'est pas des attentes, parce qu'après c'est chiant aussi. Je dis ça par contre. Après, deux secondes quand même, parce qu'après l'organisation.
Il faut trouver davantage d'argent parce que ça coûte très cher. Ah ouais. Et déjà, on a déjà deux véhicules, donc il faut tout ça, et les assurances et tout ça. Alors, si on augmente le nombre de coureurs de haut niveau, je crois que c'est.
Je dirais dans un premier temps, c'est surtout retrouver des jeunes, refaire un effectif encore plus important au niveau des écoles cyclistes, qui ensuite ça va suivre, puisque après les gamins ils grandissent
avec le club.
Et puis après ils arrivent en catégorie minime, cadet, junior, et là ça devient intéressant.
En tout cas, c'est super abordable. Laurent, la même chose.
Oui, exactement.
Ouais. On parlait de deux véhicules parce que il y a deux véhicules pour les compétitions des jeunes qui suivent, c'est ça les.
Oui, on a un camion. Un Renault, là, Trafic, là, un grand, là, à rallonger, là, pour emmener les vélos et puis...
Emmener le matos, ouais.
Le matos, et puis on peut mettre derrière 5 coureurs. Hein, Donc, de toute façon, pour les courses à étapes où on va, il faut ça. Il faut les deux voitures.
On n'avait pas développé tout à l'heure, parce que... Alors, pouvez-vous préciser, justement, c'est le genre de compétition dans lesquelles les jeunes et les moins jeunes peuvent s'inscrire, c'est les courses à étapes?
Oui, courses à étapes pour les seniors, tout ça.
Pour les seniors.
Mais ça se déroule sur combien de jours
Le samedi, sur deux jours.
D'accord.
Sur deux jours.
Il peut avoir plusieurs étapes sur deux jours. Il y en a une le samedi, une le dimanche, par exemple.
Le samedi et dimanche.
D'accord. Voilà. Ouais, merci. Parce que c'est vrai que je veux.
Donc on s'en va au tour du Mortanais ou le tour du Cotentin. Donc il y a le déplacement, il y a tout ça. Donc,
On vous quittez les frontières de la région.
Oui,
d'accord.
Pour l'équipe senior. Oui.
Pour l'équipe senior.
Il y a deux objectifs pour eux dans l'année au niveau des courses à étapes. On en fait deux dans l'année.
Qui sont marqués.
Voilà. Donc il y a ces deux jours, trois étapes. Et donc là, il faut de l'encadrement. C'est comme un petit peu comme dans le Tour de France. Hein. Il faut un directeur sportif. Il faut un mécanicien. Voilà. Bon, il y a l'hébergement et puis il nous faut le master après qui trimballe le matériel. Quoi.
D'accord. Et il y a toujours une voiture qui peut suivre, même sur les courses à ce niveau-là. Il y a toujours une équipe du club, voiture du club qui tourne.
Quand on fait les courses à étapes ou les classiques, quand vous avez. Faut être 5 coureurs pour pouvoir permettre de suivre la course. Donc là, vous faites le dépannage. Donc il y a un tirage au sort pour savoir l'emplacement de la voiture. Suivant le nombre de voitures, vous pouvez tomber le numéro 1 ou jusqu'à.
On doit respecter ça, je ne savais absolument pas. D'accord. Il y a un tirage au sort sur les voitures. Autour de France aussi, donc autour du Cotentin, pareil.
Exactement.
D'accord.
Voilà. Oui, voilà, les courses à étapes et les classiques. Hein, les classiques, c'est-à-dire c'est les villes à ville. Donc, c'est des épreuves qui ressemblent un petit peu au Tour de France.
Comme on en
sur une journée, alors.
Comme on voilà. Classique.
Voilà. Paris-Évreux. Paris-Évreux, c'est une épreuve d'une journée, mais là, c'est un ville à ville. Donc là, il y a un encadrement comme dans les courses à étapes. Donc, il y a un directeur sportif avec un véhicule qui suit derrière pour l'assistance. Mais il y a aussi beaucoup de petites épreuves, comme pour les minimes et les cadets, qui eux, ce sont souvent des petits circuits à faire plusieurs fois. Donc là, il n'y a pas de dépannage.
Et ça, vous disiez, la Fédération de cyclisme actuellement vivait quelques difficultés dans sa généralité, donc a du mal à rapprocher du jeune et autres. Est-ce que dans les organisations aussi, ça se ressent ou non, ça va, il y a encore des clubs qui se mobilisent, qui organisent et qui font vivre aussi ce sport? Comment vous le vivez, vous?
Oui, mais
c'est dur.
Ça aurait tendance à aller vers la baisse, malheureusement. C'est vrai que c'est un sport dur et puis qui coûte cher et donc il y a des difficultés.
Ouais, parce que c'est le parallèle entre le prix de la licence et par contre un vélo quoi. C'est vrai que je m'attendais absolument pas à ce montant-là. Si vous venez de nous rejoindre, mesdames et messieurs, dames, on est avec le VCE qui nous expliquait tout à l'heure qu'un vélo honnête c'était 1000 euros et c'est vrai que c'est incroyable. On n'aurait pas du tout imaginé, j'aurais pas imaginé la chose. En plus, il faut changer régulièrement, j'imagine, les pneumatiques, enfin les pneus, qui crèvent souvent.
Comme la voiture.
Voilà, ça use aussi. Messieurs, avant de raccrocher les pédaliers, on va dire ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un souvenir marquant ou qui vous a marqué, qui vous a marqué, oui, c'est un peu se répéter. Un souvenir marquant dans la vie du club ou plus individuellement, je sais pas, une course. Bon là, on a entendu les magnifiques résultats que vous avez eus à l'époque, Yvan, et chapeau bas comme on dit dans le milieu. Mais est-ce qu'il y a un souvenir marquant ou tout simplement le quotidien fait que le sourire sur vos gars là quand vous les voyez monter sur les selles, c'est très chouette. Est-ce que individuellement là vous avez des souvenirs marquants de la vie de ce club?
Je pense que ça a été un petit peu l'époque à laquelle on a débuté, nous tous les trois avec Laurent. On avait un entraîneur qu'on aimait comme un dieu et qui s'appelait Bernard Gesselot. Et on a démarré avec une équipe, on était 10 cadets. On avait une équipe de 10 cadets parce que pour les clubs c'est toujours évident d'avoir une équipe, hein, ça se court avant tout individuellement.
L'équipe c'est 5, on disait. Hein.
Oui, ouais. Mais ça c'est pour les courses, comme on disait, pour les classiques et pour les courses à étapes. Mais pour les courses en circuit, on peut être à la fois ou individuel ou avoir une équipe.
Jusqu'à 10, hein. Ouais.
Si on a une équipe avec nous, on peut courir en équipe et puis se protéger entre nous. Et là, on a.
Ce qui donne plus de force.
Oui, ouais. Et on est plus fort. Et donc, on a eu un entraîneur à l'époque qui nous a appris justement cet esprit d'équipe. Et là, on a vécu vraiment des heures vraiment, vraiment de plaisir.
Ouais, c'est la beauté de ce sport, hein. C'est vrai que l'individu est très important, mais dans les grandes courses, on ne gagne jamais tout seul. Ouais. On le voit d'ailleurs dans le poste. Vous, Laurent, un souvenir marquant ou faut être original. Il a parlé d'un grand monsieur du club. Et...
Avec Yvan, on en parlait l'autre fois au championnat de l'Or junior. On est quatre dans les sept premiers du VCE.
Cette année ou
non,
à votre époque?
En 78.
En 78.
Donc c'est vieux.
D'accord.
On était quatre du
notre
club.
Époque.
Dans les sept premiers, alors, ils font 1 et 2 et on fait 5 et 7.
D'accord.
Et donc on était 5 dans les 7, 4 dans les 7 premiers.
C'était bravo, mal, effectivement, quoi. Ouais. 78. Ouais. Belle mémoire. Patrick?
Bah moi, mon plus beau souvenir, c'est le prestige de l'heure où j'avais gagné la finale et puis je crois qu'au classement général, on était 7, 8 coureurs d'Evreux dans les 10 premiers, je crois.
Ouais, je crois qu'on était 7, oui.
Ouais. Voilà.
Bravo. On ne l'avait pas dit, hein, Yvan, mais en fait, du coup, à vous entendre parler depuis le début, ça ne fait pas longtemps que vous avez repris la présidence, si?
Non, c'est la cinquième année, là.
C'est encore jeune. Donc, vous arrivez à courir, entraîner et diriger.
Oui,
et faire l'administratif, parce que c'est chiant, ça, l'administratif, on a le droit de dire la vérité, hein. Le papier.
Le temps, c'est le mot qui fâche. C'est vrai que je suis un petit peu dans le dur au niveau du temps. Je suis toujours en train de courir.
Il faut concilier la vie de famille, s'organiser. Voilà. Tout se fait, mais tout est compliqué. On l'imagine bien. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. On rappelle que si on veut en savoir un petit peu plus, on peut venir vous croiser devant la salle Omnisport, hein, en centre-ville d'Evreux, près de la grande surface à 4 lettres et pas loin du cadran, à 15h30 le mercredi. Mais il y a peut-être aussi des coordonnées sur Internet ou dans un annuaire peut-être, ou vos propres coordonnées. Comment on fait pour vous joindre?
Sur Internet.
Il y a un blog,
Il y a un blog aussi.
Vélo Club d'Evreux.
C'est vcevreux.skyrock, je crois, c'est ça. Ouais.
D'accord.
Ouais. Et puis sinon, oui, faut m'appeler, moi, à ce moment-là, ou Patrick, mais bon.
Vous trouver, oui, c'est vrai, oui, que oui. Voilà, Evreux, on connaît, oui, forcément, oui. Yvan.
On peut se renseigner aussi à la salle Omnisport et puis là, il vous donne toutes les coordonnées. Hein.
Eh ben voilà, superbe. Au moins, on a le mérite d'être clair. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez absolument souligner? Venez, le vélo, c'est vrai que c'est sain, c'est agréable.
On n'a pas parlé, il y a un vélodrome au Neubourg et la piste, on y va tous les jeudis soirs à partir d'avril.
D'accord.
Et alors, ça, c'est bien aussi pour les jeunes.
C'est fermé ou c'est ouvert?
C'est une piste, hein, c'est un vélodrome.
C'est fermé. D'accord.
Et c'est pas mal pour les jeunes, ça.
Donc on tourne, c'est comme les compétitions qu'on voit au niveau là, nos Français, oui, d'ailleurs, voilà, qui sont bons en départ, oui, arrêté.
Voilà,
qui,
voilà. Bah, c'est exactement, bon. C'est ça. Voilà.
D'accord.
Voilà, donc cool. Pour revenir aux entraînements, on fait un entraînement le mercredi après-midi minime cadet, donc à 15h30 en ce moment, et puis qui passera à 16h à partir d'avril quand les jours vont se rallonger. Nous referons aussi à partir d'avril les entraînements sur piste au Vélodrome du Neubourg le jeudi soir. Et puis, on maintient aussi un entraînement pour les jeunes le samedi matin à 10h30 devant la salle du sport.
D'accord. Et on emmène les coureurs.
Ouais. Avec le bus. Avec le
vous êtes organisé à total. D'accord. on accompagne complètement. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Je crois que ça a eu le mérite d'être clair. Il fallait faire la part belle à ce vélo club hébroïcien ou d'Evreux. Il y a cette petite anecdote qu'on a eue tout à l'heure sur l'inscription dans les dossiers. Merci beaucoup Patrick, Yvan et Laurent d'être venus en parler.
Bah, c'est nous qui vous remercions.
Bah non, c'est cool, ça fait plaisir de recevoir des activistes hébroïciens et du territoire.
Quand on parle du vélo club, c'est extra, c'est bien.
Et ben voilà, et puis on a entendu et on a reconnu le fait que c'est très agréable de voir qu'il y a une vraie fidélisation et une vraie homogénéité dans votre groupe là, des organisateurs, des encadrants, puisque vous vous connaissez depuis très longtemps, c'est beau aussi. Voilà, on a le droit de le dire. Et bien voilà, le vélo a encore des kilomètres à parcourir, j'ai envie de dire sur le territoire et sur le département. S'il y a bien un club sur lequel à se rapprocher, c'est vous. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'une semi-concurrence? Est-ce qu'il y a d'autres clubs de vélo à Évreux? Moi, j'avoue ne connaître que
Il y a le UV Neubourg.
Voilà. Après, c'est on sort d'Evreux.
D'Evreux, parce que sur Evreux, il y a un deuxième club. Il y a le Guidon d'Or d'Evreux.
D'accord, que je ne connais pas. Hein. C'est pour ça que je vous pose la question. Et après, on sort du territoire de l'agglo. Voilà. VCE, on l'a dit. Merci beaucoup Yvan, Patrick et Laurent.
Merci.
Une bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, dames, restez sur l'antenne de Principe Actif. N'oubliez pas, il y a une rediff dès 15h. Il y aura Radio Lomax qui fait la part belle au 106, Mixture, La Factory, une rediff et It's Time avec un invité, Natenja. Bye bye, bye bye, bye bye. Merci messieurs, au revoir. Et un bon début de semaine à toutes et tous. Au revoir.